Aujourd'hui, dimanche 24 décembre, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Cette semaine, le président Macron s'est exprimé à la télé, une interview menée par le brillantissime Laurent Delahousse, qui a parfaitement posé les questions que souhaitait le président. Une interview pas conventionnelle en marchant dans les couloirs de l'Élysée. Moi, je trouve qu'on devrait essayer, nous aussi. On recevrait les invités à l'entrée de Radio France, porte A. On irait faire un petit tour à France Info pour avoir leur avis sur l'actu. On irait faire un coucou aux gens de France Culture, histoire d'avoir l'air sérieux. On passerait par Mouv pour faire jeune. Un petit stop à la cafette, on sait recevoir. Pendant tout ce temps-là, on poserait les questions que nos invités nous auraient envoyées par mail la veille. Et hop, sortie, porte B, histoire de varier les plaisirs. En même temps, le dimanche, il y a les animateurs du week-end qui ont picolé tout le samedi et qui dorment à même le sol. Et ça, ça fait désordre. Imagine, tu tombes avec tes invités sur Augustin Trapenard, à poil dans les couloirs, en train de beugler « Hey, ma bouteille de rhum !» Ça fait plus que désordre. En même temps, c'est un peu ça, le service public. Enfin, surtout sur France Info.
Vous les femmes.
Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, aux femmes de qualité. Bien entendu, pour m'accompagner, l'homme qui a tous les talents et le prouve tous les dimanches. Cultivé, sexy, spirituel, drôle, spontané. Albert Algo, comment allez-vous ?
Oh, écoutez, là c'est vraiment des cadeaux en avalanche parce que jamais vous m'avez fait autant de compliments et ça me fait rougir. Alors je vais très très bien et comme c'est une émission festive, je suis venu avec le père Albert qui est là. Oui, je suis là.
Normal.
Et également un grand ami de la bonne chère, Jean-Pierre Coff, le neveu de Jean-Pierre Coff.
Jean-Pierre Coff qui va sûrement nous donner de bons conseils pour se réveiller ce soir.
Bien sûr, oui.
On apprend à mieux la connaître un peu plus chaque semaine. C'est notre attachée de production, la prénommée Christine. Et aujourd'hui, on va en apprendre encore un peu plus sur cette femme qu'on peut qualifier, oui, d'incroyable. Bonjour Christine.
Bonjour.
Se réveillons alors, la préparation, ça se passe comment ?
Alors j'ai prévu ce soir de faire une orgie
de chocolat. Merci Christine, là vous êtes un petit peu trop long. Alors, autre élément incontournable de vous les femmes, l'homme au micro. Mais l'homme au micro qui ne tombe pas toujours, on peut le dire, sur des clients sympathiques.
Vous avez un pois chiche à la place du cerveau.
Oh là là là.
Ah oui, ça m'a reconnu là.
Vous avez un pois chiche. Et qui est cette personne ?
Bah, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein, mais bon.
Toujours cette saleté de Jean-Luc Mélenchon,
vraiment,
qui ne respecte personne.
Il est
à part
dur.
Ça, comment vous allez ?
Mais écoutez, ça va très bien. Alors écoutez, Albert, comme Daniel ne vous fait que des cadeaux de mots, moi je vous fais un vrai cadeau. Et Daniel, j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Ah, si, c'est normal. Voilà,
non, parce merci.
On est quand même le 24 décembre.
On est le 24 décembre.
Et oui.
On peut l'ouvrir.
Oui, oui, ouvrez-le. Surtout, Daniel, ouvrez-le.
C'est un livre, L'art des interstices.
J'ai trouvé le titre très bien, L'art de l'interstice.
C'est publié chez l'éditeur, car voilà. Ça s'appelle l'éditeur.
Et regardez le
Pierre Lamalati.
Ouais, Pierre Lamalati qui est peintre.
C'est
aussi.
Un roman.
Exactement.
Là, j'ai beaucoup de chance, j'ai une petite boule à neige avec Emmanuel Macron à l'intérieur.
Et qui dit
je ne suis pas le Père Noël.
Voilà.
Je ne suis pas le Père Noël, mais
donc,
c'est
Pierre
tout.
Pierre Lamalati, l'art des interstices, je vais lire ça. Oh, oui, ça va occuper mes vacances.
C'est épais, hein.
C'est bien.
Alors merci pour les cadeaux, mais Hervé, j'aimerais savoir si vous êtes occupé de nos deux invités.
Mais bien sûr, mais ça va être pour tout à l'heure. Pour le moment, on ne sait pas encore qui c'est, je ne peux pas vous en dire plus.
Non,
mais...
on ne peut pas en dire plus. L'important, c'est de savoir que vous en occupiez bien.
Bien.
Et nos deux invités, en ce dimanche 24 décembre, sont. Femme à casserole, femme à poil, elle aime le poisson. Ça la regarde. Elle le fait, mais aux autres, et ça c'est une performance. Chef étoilé à 21 ans, première clameur. On sait que seulement 3% des étoilés sont des femmes. Seconde clameur, cette femme toquée qui a gagné ses galons de firmament, c'est Julia Sedefjian. Comment allez-vous, Julia ?
Super bien, et vous ?
Ça va plutôt pas mal. Je suis ravi de vous accueillir. Quel parcours ? On va en reparler tout à l'heure.
Avec plaisir.
Face à Julia, femme libre dans son corps, elle l'a prouvé à l'image, femme libre dans sa tête, elle l'a prouvé au micro, actrice, réalisatrice, militante. Quand elle parle liberté, égalité, sexualité, croyez-moi, elle sait de quoi elle cause. Il s'agit d'Ovidie. Bonjour Ovidie, vous allez bien ?
Bonjour, mais oui, ça va très bien.
Ovidie, Julia, vous êtes les bienvenus ici dans le studio de la
Bravo
Maison de la Radio.
Bravo.
Alors, j'ai été un petit peu juste, c'est une présentation un peu sommaire, et pour mieux vous connaître, mesdemoiselles, je vais laisser la parole à un de nos collaborateurs qui a été annoncé tout à l'heure, c'est le père Albert. Comment allez-vous,
mon père ? Mais je vais très très bien, surtout en ce jour sacré et saint. Alors, tout d'abord, eh bien, avec un jour d'avance, Julia Sedefjian, joyeux anniversaire !
Ah oui !
Eh oui, votre anniversaire, merci. C'est dans deux jours, c'est ça, Julia ?
Ouais, le 26.
Anniversaire, Julia.
C'est la fête, hein.
Anniversaire, Julia. Joyeux anniversaire.
Jamais entendu un anniversaire aussi mal commencé. Hein.
Cher Ovidie, cher Julia Sedefjian, outre qu'il m'arrive de temps à autre, comme vous, de porter la robe, nous avons, vous et moi, un point commun, la chair qui est notre passion. Pour vous, cher Julia, c'est la bonne chair.
Pour vous, cher Ovidier, ce sont les plaisirs de la chair. Et pour moi, c'est quand je monte en chair. Oh. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous débiter un sketch lamentable à la Raymond DeVos en épuisant toutes les ressources d'une homonymie. Oui, pourtant, je pourrais même faire du stand-up, moi aussi, en épuisant toutes les ressources d'une homonymie, si plaisante soit-elle. Je me contenterai donc de faire remarquer à nos auditeurs que si Julia a une grande connaissance de la chair à saucisse, Ovidie de son côté, pardonnez-moi cette métaphore.
Oh là là, je le sens, je vois arriver mes gros comme un camion.
De la saucisse de chair.
Bien, c'est un peu sommaire,
Mais tais-toi, Daniel, fils du diable, suppôt de Satan, satyre barbu, aux pieds fourchus, respecte la trêve du Sainte Noël et dont l'esprit m'habite. Donc, tu voudrais que je vitupère contre ces deux créatures esclaves du plaisir en démontrant qu'elles incitent chacune à un péché capital. Hein, c'est ça que tu veux?
Non.
Julia, la gourmandise. Quel amour déréglé du manger et du boire. Et cela depuis son plus jeune âge. Elle commençait en faisant des crêpes. Et ce qui aggrave son cas. Et pour Ovidie, la luxure, contraire à la vertu de pureté.
Luxure. Au bûcher.
Tu vas y passer. Luxure. Des bûches, il y en aura tout à l'heure. Luxure encouragée, jadis dans des exhibitions cinématographiques glorifiant la concupiscence. Luxure encouragée aujourd'hui par un livre licencieux qui, sous prétexte d'une libération, dépeint les vices sous les couleurs les plus séduisantes. Oui, l'esprit de Noël m'habite.
On dirait pas Père Noël.
Ma
Père
sainte
Adèle, pardon. Ah, on est le 24.
Ma sainte colère n'est que l'envers de l'amour, Daniel. Et puisque tu m'avais demandé de dire comment j'envisageais Julia et Ovidie dans 10 ans, aussi surprenant que ça paraisse, Julia, qui rêve aujourd'hui d'avoir un chien, finira par en adopter plusieurs dans 10 ans. Et retournant à sa vocation première, qui était de devenir vétérinaire, se spécialisera dans le pet food, non pas une cuisine à base de chou-fleur, de lentilles ou de cassoulet, mais la nourriture pour chien et chat, bien entendu. Quant à vous, Ovidie, je pressens que dans votre désir de vous libérer de toutes les aliénations, tu finiras par te délester de la pire qui soit, celle du sexe. Je te l'annonce, tu seras la Christine Boutin du futur.
Yes.
En attendant, comme vous restez toutes deux boules de vis, esclaves de vos désirs impurs, je vais devoir procéder sur vous et en même temps un exorcisme flash. Rogamus immundus spiritus diabolicus, vade retro, exeat Ovidiae corporum, et Juliae cuisinorum, et castellorum. Ta mère flamme des crêpes en enfer. Je te conjure, démon de la gourmandise et de la volupté, sors du corps de Julia, sors de celui d'Ovidie. Ta mère bouge son boule en enfer. Tu ne veux pas, diablotin, hein, tu ne veux... Allez, alors viens, entre dans le mien. Oui, viens, fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. Non, pas comme ça, non, doucement. Attends, oui, comme ça. Vas-y, démon, démonte-moi. J'y consens, come into me, take me, prends-moi, venge-toi. Ça marche, Daniel. Vous pouvez continuer l'émission.
Merci, c'était le père Albert qui procédait à un exorcisme flash. Ça s'est très bien passé. Mesdemoiselles Ovidie et Julia, vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 18h. Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, encore, vous les femmes sur France Inter. Excellent dimanche à tous et bonne préparation de réveillon.
27 rue Fox présente rien qui n'est d'importance. Corps détox me tente, je me sens tombé pour la transe. Oh, oh, dans ce bungalow s'emboule la facette. L'amour, dans la nuit sans étoile. L'amour, toujours. Des étoiles plein les yeux. Plein les yeux, l'amour encore.
puis changeons de bord. Une fois contente, puis revenons encore plus fort.
Il n'y avait pas grosse patate, mais bon, il y avait du rythme avec Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, encore, encore dans Vous les femmes.
Vous les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Sur France Inter, jusqu'à 18h, nos invités du jour, de ce jour de réveillon, ce jour de fête, sont Julia Sedevdian, chef étoilé, qui d'ici un mois et demi, va ouvrir son restaurant 5 rue de Pontoise dans le 5e arrondissement. Ça s'appellera Bayetta. Ovidie est également parmi nous. Ovidie qui signe Libre Manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels aux éditions Delcourt. Mesdemoiselles, on va revenir sur quelques dates qui ont jalonné votre parcours. On commence par vous, Ovidie. Vous voulez
Allez,
bien?
Allons-y.
Allez, 1er mai 1999, c'est la première fois que vous vous faites appeler Ovidie.
Eh oui, c'est la naissance d'Ovidie. C'était un dimanche 1er mai, ce que je trouve assez drôle quand même comme entrée dans le monde du travail.
Ouais, c'est
commencer,
pas mal.
Franchement, c'est pas mal.
Le jour de la fête du travail.
Et c'est déjà, ça annonçait que j'allais arriver dans un secteur un peu gris, quoi, c'est-à-dire légal, mais toujours un petit peu borderline. Mm-hmm. Et effectivement, c'était la date de mon tout premier tournage. Et jusqu'au dernier moment, j'ai hésité avec le choix du pseudo. Et puis ce pseudo-là, du coup, il m'a collé à la peau.
Et pourquoi
encore à la peau. En fait, c'est un personnage de bande dessinée, un dessinateur qui s'appelle Petit Luc, et c'est une rate. Qui vit dans une décharge, qui traîne avec des marginaux, avec un
c'est un personnage festif, ouais. Vous avez une bonne image de vous-même.
non, mais elle est...
Vous avez parlé à votre psy ou pas?
Non, mais c'est un personnage vraiment très intéressant parce que justement, elle se rebelle, elle prend la pilule, elle tue ses petits à la naissance, elle s'affranchit de sa condition de rate, reproductrice.
De rate soumise et reproductrice, essentiellement.
Exactement, oui. C'est ça. Et puis elle traîne avec tous les marginaux, donc un sans-queue, donc un hamster, mm-hmm. Et un rat homosexuel dont le compagnon a été assassiné et il décide de fonder une sorte de secte pour dominer le monde.
Mais c'est une rate libertaire aussi.
Mais c'est une rate libertaire, exactement. Et bon, voilà, à l'époque, j'avais des rats et je me suis dit, c'est un personnage qui me parle. Je vais m'appeler comme ça.
Donc voilà, c'est une inspiration qui vient d'une BD qui vous a aidé à vous affranchir, c'est ça?
Exactement.
On passe à la deuxième date, juillet 2000, c'est la réalisation de votre premier film.
Et ce qui était assez au-delà du réel quand même, c'est que c'était un film un peu hommage à Jean Rollin et à Ed Wood. En fait, c'était inspiré d'un film qui s'appelait Orgy of the Dead, qui était un nudies d'Ed Wood qu'il avait dû faire parce qu'il était fauché. Et avec des nanas qui faisaient des striptease dans un cimetière. Et je me suis dit, très bien, on va mettre des zombies puis on va les faire baiser sur des tombes carton-pâte. Et au moment où on filmait ça, ce qui était déjà un peu n'importe quoi, le Concorde s'est crashé. Et donc, c'était...
Vous croyez que c'est lié à ça?
Pas de rapport de cause.
Dieu s'est vengé.
On passe à 2011, et là, c'est Rhabillage, votre premier doc.
Ouais, qui était produit par Jean-Jacques Benex, mm-hmm. qui m'avait pris par la main et qui m'avait poussé à aller voir Envoyé spécial à l'époque et qui avait cru en moi, qui était le premier à croire en moi à ce niveau-là. Parce que faut bien comprendre qu'à l'époque, je pensais que j'étais tellement stigmatisée que jamais le service public, quoi. Enfin, jamais
oui,
France
étiqueté,
2,
étiqueté à mort,
tellement voilà. Étiqueté, ouais. Tellement marqué au fer rouge que jamais on me laisserait réaliser du reportage ou du doc. Et finalement, ça a été le point de départ de plein de choses parce qu'il y a eu plus de 5 millions de téléspectateurs ce soir-là, que c'est ça qui m'a permis de faire du documentaire par la suite et et aujourd'hui, je fais pratiquement que du documentaire. Donc, c'est un film qui a changé ma vie en termes de réalisation, idée en deçà, je sais pas, de ce que je peux faire maintenant, mm-hmm. et voilà. Mais, mais c'était le tout premier, je l'ai fait avec ma petite caméra, voilà, ça a été un moment marquant, un tournant important de ma vie.
Oui, c'était quoi le sujet ?
Rhabillage, c'était sur la période délicate qui suit reconversion, qui suit l'arrêt du porno, qui est en fait le moment le plus difficile, c'est-à-dire ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la carrière d'une actrice X, le moment le plus difficile, c'est celui où elle arrête et où elle se rend compte qu'elle est complètement rejetée par l'ensemble de la société.
Surtout les femmes. Hein.
Surtout les femmes, voilà, évidemment, pour les hommes, c'est pas du tout le même traitement. et que non seulement d'un point de vue professionnel elles se sont suicidées, on va dire, mais en plus on peut leur retirer leur comment dire leur légitimité en tant que mère, leur légitimité en tant que compagne, enfin tout à coup tout ce qui peut être un peu le pilier fondateur de leur vie, bah, tout s'effondre. C'est une période qui est souvent très délicate.
On passe à mai 2014, vous reprenez vos études.
Ouais.
Vous n'y croyez pas au début, vous dites non, c'est pas la peine.
Non, j'y crois pas, et c'est mon directeur de recherche qui me pousse à le faire. Moi, encore une fois, j'étais persuadée que j'en étais pas capable, ou j'étais persuadée que j'étais trop marquée au fer rouge pour ça. Et il m'a poussée à reprendre mes études, et voilà. Et aujourd'hui, je suis en deuxième année de doctorat, et je finirai par soutenir, je finirai par finir mes études un jour.
Et votre thèse, elle portera sur quoi ?
C'est sur l'adaptation de fiction à l'écran. Voilà, c'est sur, ouais, c'est sur ce truc-là. Merci. En fait, j'ai mon premier fan ici. Merci.
Enfin, le premier fan, il y a aussi un premier collaborateur qui, enfin, un de vos collaborateurs, puisque Daniel Morin a travaillé sous votre houlette.
Ah oui,
on peut le dire.
Il a tourné dans le X.
Il fait le.
J'étais un grand acteur X.
C'est vrai.
J'ai participé. Alors, je sais pas si je dois être fier ou si je dois être vexé, parce que j'ai tourné dans un film X, mais à tout moment, j'étais habillé. J'ai pas une seule fois été nu. C'est quand même vexant.
C'est l'art du suspense, quoi.
Et il était bon comédien.
Très bon, Daniel, vous avez brillé par votre présence.
Et par ma retenue. Et c'était pas.
C'était le titre du film pour pas grave le donner. Là.
On peut le faire. On peut
Bien sûr.
Ah, oui. Pulsion. C'était un film qui s'appelle Pulsion, qui a dû être diffusé en 2014, peut-être bien, je crois, sur Canal+. Est-ce qu'il y a eu des retombées suite à Pulsion ? Est-ce que ça a changé ?
Il était engagé à la radio.
Le lendemain, enfin pas le lendemain, le surlendemain de la diffusion, à Radio France, les gens regardaient et disaient « Hey, bien joué !» J'ai vu.
Je suis tombé dessus par hasard. Hein.
Complètement par hasard. Allez, dernière date, c'est sûrement la consécration, j'imagine. C'est le 24 décembre 2017, vous êtes sur France Inter. Dans Vous les femmes, vous venez parler de votre livre « Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels ». En quoi ce livre est-il déculpabilisant et décomplexant ?
En fait, c'est un livre qui est arrivé à un moment où je me suis rendu compte qu'on parlait de sexe absolument partout, qu'on en parlait sur la place publique, mais qu'on n'en parlait pas forcément bien, qu'on parlait pas forcément de plaisir et de désir, qu'on parlait de sexe en termes d'injonction, de performance, en termes mercantiles aussi, mais qu'en fin de compte, il y avait pas mal de nanas autour de moi, enfin pour donner des exemples un peu concrets, je sais bien que c'est Noël, quoi, mais qui par exemple pouvaient se faire des plans à trois, des choses comme ça, qui avaient essayé un certain nombre de trucs dans leur vie, mais qui à côté de ça me disaient mais et moi l'orgasme non quoi, ou moi ma chatte je la trouve pas belle, ou moi enfin c'était des choses qui pourraient sembler assez élémentaires en termes de découverte et d'acceptation de soi dans le corps de son corps, et qui à côté de ça enfin voilà étaient s'obliger à accepter un certain nombre de pratiques pour être coté à l'argus de la meuf bonne, quoi.
De pratiques et de critères aussi, hein, les critères de beauté, notamment comment aimer son corps et être en paix avec sa morphologie quand tout notre environnement culturel nous dit que le contraire. Parce qu'il n'y a pas que les pratiques sexuelles, il y a des pratiques qui sont induites par le corps évidemment, mais il y a les apparences, il y a toutes les injonctions de la mode, les injonctions d'une idéologie dominante qu'on trouve même au sein des magazines féminins. Vous l'expliquez très bien. Et pour moi, très très rapidement, je veux dire que c'est non seulement un livre féministe, mais c'est un livre humaniste au bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est un livre qui incite à respecter les individus, aussi bien les hommes que les femmes. Et ça dépasse justement les simples pratiques sexuelles ou les attitudes. Donc c'est un livre absolument formidable que je recommande. Il faut le faire lire à des adolescents, des adolescentes, filles et garçons, parce que je pense que ça leur ouvrira l'esprit de manière tout à fait remarquable. Et les parents aussi. C'est vraiment, sans blague, un très très bon bouquin, franchement.
C'est pas juste la blague, ça fait vraiment deux semaines qu'Albert
sexuellement il a complètement changé. Il se jette sur nous, d'habitude il le faisait pas comme ça, quoi.
Mais c'est vrai qu'il n'est pas juste question de pratique sexuelle,
voilà,
il y a aussi j'explique mon rapport personnel au poids,
le chapitre est formidable parce que ça va à l'encontre de tout un tas de clichés, de stéréotypes insupportables pour
un
beaucoup
livre,
de femmes et beaucoup
illustré.
De garçons.
Livre illustré.
Ovidie rougit, je le dis, parce que nous sommes sur France Inter, c'est la couleur du studio.
Je rougis facilement.
Ah oui,
mais
vous parlez de l'illustratrice, parce que le dessin est à la fois précis et élégant, et il va de pair avec le texte.
Et pourquoi les dessins ?
parce que pour plusieurs raisons déjà, parce que c'est bien d'avoir une mise en application, je dirais une illustration du propos dans des situations du quotidien. Ensuite, parce que j'apprécie énormément le travail de Digli, qui pour moi est une grande illustratrice féministe. Et puis aussi pour représenter une diversité des corps, ça me semble important. Je pense que plus on se retrouve confronté au quotidien à des images de corps différents, de différentes représentations, plus on s'y habitue et plus finalement on s'accepte. Enfin, un truc tout bête, mais par exemple Digli, ce que je trouve très appréciable, c'est dans ses représentations des femmes rondes, elle fait pas des représentations de... Oui, ouais. Par exemple, mais voilà, quand elle dessine une femme ronde, elle dessine même les bras ronds, etc. Souvent, quand on fait des représentations de femmes rondes, on voit une nana avec un bon pétard, à la taille très fine, des gros seins, etc., les bras fins. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a vraiment pris le temps de dessiner ses copines, de dessiner des corps qu'elle connaissait, et d'être la plus proche de la réalité possible.
Julia, c'est un parcours légèrement différent. On va parler de septembre 2009, c'est le début de votre apprentissage. Et ça se passe bien, ça se passe comment en fait ?
En fait, moi je suis niçoise, donc j'ai vécu 17 ans à Nice. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans, dans un restaurant gastronomique à l'époque à Nice. Mmh. Au début, bon, j'arrive dans cet univers que j'idolâtre. Je suis sûre que je veux faire ça. Ça fait 2 ans que je dis à ma mère, je veux faire de la cuisine.
Elle était d'accord ? Elle vous laissait ? Ou elle avait quitté l'école ?
Parce qu'il y avait des réserves.
Voilà. Il y avait des réserves, bien sûr. Enfin, moi, j'ai une maman poule. Ouais. C'était pas facile pour elle de se dire, je laisse ma fille de 14 ans rentrer dans un monde qui est vachement masculin, qui est dur, où il y a de la pression. Donc, au début, c'était pas facile. Et en fait, je me retrouve en cuisine et je me dis, c'est pas du tout à quoi je m'attendais.
Ça tirait pas à ça, non ?
Donc, je laisse passer 1 semaine, 2 semaines, et là, je commence à m'intégrer, je commence un peu à comprendre le monde de la cuisine et tout. Donc, je suis super soulagée parce que je me voyais pas dire à ma mère 1 semaine après avoir commencé, en fait, non, je veux plus faire ça. Alors que ça faisait 2 ans que je lui disais, non, maman, je vais faire de la cuisine, j'arrête mes études, et de toute façon, je te laisse pas le choix, quoi. En gros, c'était un peu ça. Donc, ouais, ça m'a marqué, c'est les années de formation qui me laissent des souvenirs.
Oui, l'appréhension, c'est pas où on va, et puis finalement, on se dit, j'ai bien fait d'insister.
Oui, et puis c'est les premières rencontres. Moi, j'ai toujours eu des chefs et mes collègues qui m'ont poussé à aller encore plus loin, qui m'ont fait découvrir plein de choses. Donc, c'est vraiment 3 années de ma vie que j'oublierai jamais. Et c'est pour ça que la formation, c'est super important quand on commence, quoi.
Et là, on passe à septembre 2011. Médaille d'or régionale, meilleur apprenti de France. Fierté.
Super expérience avec mon chef. Les concours, c'est bien et c'est très dur parce qu'il faut avoir du temps à côté pour s'y préparer alors qu'on a déjà des journées super longues. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de pression. Et après, le jour J, c'est énorme parce qu'on a une adrénaline qui sort de nulle part. Et voilà, c'est des moments géniaux. Mais c'est vrai que quand tu sors sans prix, faut le prendre en se disant, voilà, même si j'ai bossé et que j'ai tout fait pendant 2 mois pour ce concours, même si j'ai pas gagné, on repart, je me remets en question. Il y aura toujours meilleur que moi de toute façon. Mais ouais, c'est des belles expériences, ça marque une vie en tout cas.
Alors après, vous rentrez au restaurant Les Fables de La Fontaine, et le 1er février 2016, vous êtes plus jeune chef étoilé de France, tout simplement. Vous avez quel âge ?
21 ans.
C'est incroyable.
Et c'est quoi les réactions dans le métier alors ? Parce que c'est incroyable d'être chef étoilé à 21 ans.
C'est incroyable, mais je pense que davantage que mon âge, c'est plus le fait que je sois une femme.
Oui.
Qui est sorti du lot. On est beaucoup venu me voir en me disant, bon, qu'est-ce que ça fait d'être étoilée à 21 ans et en plus d'être une femme ?
Ouais, alors ça fait quoi ?
Non mais moi je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Enfin, mon patron est venu me voir en cuisine à 13h pendant le service et me dit avec un bouquet de fleurs à la main, il s'agenouille devant moi, il me dit voilà, je suis devant la plus jeune chef étoilée de France.
Agenouillé devant vous, c'est génial.
Et je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Enfin, c'était une surprise totale et c'est un moment.
Il n'y a pas du tout eu de fuite. Parfois on sent qu'il y a des fuites, on dit il y a des nouveaux.
Il y a des années où il y a des fuites, il y a des années où il y en a pas. Donc et sur ce coup en plus c'était vraiment la surprise parce qu'on a tout métamorphosé dans le restaurant. Moi je venais de prendre la place de chef l'année d'avant et on remettait tout en jeu cette année-là et on s'était dit bon même si on la perd c'est pas grave, on ira la chercher l'année d'après et on était plus dans cette optique-là. Donc c'était vraiment une surprise et clairement ça a changé ma vie dans le sens où j'ai commencé à être médiatisé et sortir un peu de ma cuisine et faire de nouvelles choses.
C'est cliché de dire que c'est plus dur pour une jeune femme de percer dans ces métiers de bouche mais d'excellence.
Pour moi ouais, c'est complètement cliché.
C'est cliché.
Je déteste qu'on victimise la femme. Et... C'est un métier qui est dur pour tout le monde, qu'on soit une femme.
Ne regardez pas comme
soit...
ça, moi c'est une question de plaisir. Défendez-moi, Ovidie, faites quelque chose.
C'est juste qu'il faut s'accrocher, qu'on soit une femme ou un homme, c'est un métier dur. Et, On arrive, les femmes arrivent au pouvoir, ça arrive, il y en a de plus en plus dans les écoles.
Ça fait un peu menace, non? Attention, les femmes arrivent, les gars. Les femmes arrivent, je vous
ai un couteau dans ma poche.
Ah bah oui, toujours équipé. En tout cas, Bayetta, c'est votre restaurant, celui que vous allez ouvrir de vos petites mains, toute seule, que vous avez pensé toute seule. Ce sera 5 rue de Pontoise dans le 5e arrondissement.
Bayetta, ça veut dire bisous en niçois, parce que je suis niçoise. Et pour moi, c'est le partage, la générosité. J'adore les moments où on est à table en famille et que tout le monde se marre. Et pour moi, c'est cette vision-là que je veux avoir dans mon resto. Et je veux avoir l'étoile dans ces conditions et pas être le resto guindé où tu viens et que tu n'oses pas parler. Et voilà, je veux vraiment que...
Mais c'est une obsession. C'est une obsession d'aller chercher l'étoile, parce que vous avez dit aller chercher l'étoile. Et moi, je pensais que vous étiez chef et que votre plaisir, c'était de préparer des bons plats, que les clients soient contents et tout. Et puis bon, l'étoile, elle vient ou elle vient pas, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que le client soit satisfait. Mais vous, vous y pensez dès que vous ouvrez votre restaurant?
J'y pense. C'est mon objectif maintenant, ouais. Si je l'ai pas. Enfin, moi, je le fais pour mes clients. Je le fais pas pour le Michelin. Mais clairement, c'est une récompense autre que quand le client te dit « ouais, j'ai passé une super bonne soirée ». Ah oui. On est reconnu par des professionnels. Donc, mais clairement, si je ne l'ai pas en 2019, ça ne sera pas la fin du monde. Et tant que mon resto marche et qu'on sait ce qu'on sait faire, il n'y a pas de problème. Quoi.
La dernière fois que vous avez dit « si on ne la garde pas, on la prendra la prochaine fois », vous l'avez eu tout de suite après. Donc voilà, donc, ça va bien se passer. Alors moi, je suis un peu inquiet parce que dans ce restaurant, Bayetta, vous allez être épaulé par un second de cuisine qui s'appelle Sébastien Jean-Joseph. Ce monsieur, son état civil, c'est 3 prénoms. Vous savez que c'est mauvais d'avoir juste des prénoms. Regardez, Émile Louis, Guy Georges, Claude François, 3 psychopathes. Ça vous fait peur ou pas? Vous y avez pensé?
Non, pas du tout. Ça me fait pas peur. Ça sera mon associé en plus.
Oh là 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 là.
Donc, pas de soucis.
D'accord, j'espère que ça se passera bien. Vous allez proposer un menu déjeuner à moins de 30 euros. Chez McDo, pour 7,70, on a un maxi best-of. Vous allez faire quelque chose, un effort supplémentaire? Non, c'est pas la même proposition?
Non, même si je me permets d'aller à McDo de temps en temps.
Ce sera pas la même proposition. En tout cas, on a hâte que vous ouvriez et on ira vous voir, bien évidemment. Un titre qui vous rappelle un souvenir, c'est une question qu'on vous a posée, mesdemoiselles. Ah bah tiens, puisqu'on est avec vous, Julia, on va continuer. Vous, un titre qui vous rappelle quelque chose de particulier, c'est ça?
Hakuna Matata.
Hakuna Matata, le roi lion. C'est mignon. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous fait penser à quoi quand vous entendez ça?
Ah, c'est plein de bons souvenirs parce que voilà, comme je vous disais, la cuisine c'est un métier super dur.
Difficile,
et
il nous en faut peu pour
être heureux. Et cette chanson, ça signifie en gros, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il faut prendre la vie comme elle vient. Et ça nous ressemble avec mon sous-chef. Et c'est une chanson qu'on se chante quand on n'a pas trop le moral, quand on est fatigué. Et voilà, ça nous permet de se ressouder un peu et de reprendre de l'énergie pour le service qui vient, quoi.
Un Disney, une étoile, et ça repart. Alors, vous, Ovidie, c'est légèrement différent.
Un peu plus strange, hein, un peu plus chelou.
C'est très, très strange, et vous allez devoir nous expliquer pourquoi. Hein. Alors, c'est ça, déjà. Gary Numan, Our Friends Electric. Alors, déjà, où est-ce que vous écoutez ce titre?
Alors, je suis à Londres,
au Troxy.
J'assiste à un concert de Gary Numan que j'admire beaucoup. J'écoute beaucoup de pop synthétique. Et je suis tranquillement en train de danser. Pénard. Tout se passe bien. Et là, soudain, inattendu, un orgasme. J'essayais de conserver un semblant de dignité, mais je veux dire le vrai avec les manifestations physiques, les contractions, le truc qui monte, qui ravage le cerveau, les vrais symptômes, les vraies manifestations de l'orgasme. Et je ne savais pas qu'il était possible d'en avoir un comme ça, juste avec une émotion musicale.
Bah c'est dû à quoi? Vous êtes renseigné, vous avez...
Alors après, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que je dansais que donc il y a eu un frottement sans que je me rende compte? Mais je crois pas. Non, je crois vraiment que c'est une émotion musicale. Et j'étais tellement bien, tellement heureuse, il y a dû y avoir une espèce de sécrétion d'endorphine, d'ocytocine, de je sais pas quoi. Et tout à coup, pouaf, ça m'a cramé le cerveau. Curieux, hein, comme
le mot. Et quand vous le réécoutez
Non, mais après j'aime bien le morceau chez moi tranquillement, mais là le je sais
ce
pas.
Jour-là, pour
ce
une
jour-là
raison.
Et en plus il jouait un petit peu sur les nerfs, c'est-à-dire il avait repris avec des petits passages au piano tout doucement, puis pouf ça répétait, puis hop ça redescendait.
Ah bah voilà, il jouait sur les nerfs.
Et voilà, et ça m'a explosé le crâne, ouais.
Et vous, Julia, sur Hakuna Matata, tout va bien? Oui.
Elle est beaucoup plus pudique.
Non, il joue pas avec les nerfs hein, chez Disney. Il joue rarement avec les nerfs. Mesdemoiselles, ben voilà, là, pour l'instant, là, c'est léger, tout ça, tout va bien, mais on va passer aux choses sérieuses. On va passer à votre intérisation. Alors, Julia, Ovidie, on va revenir très brièvement un petit peu sur votre parcours, mais à la mode France Inter. France Inter, ça veut dire qu'on va mettre en avant la misère et la lutte des classes.
Julia Sedevjan, femme de poigne, qui les uns après les autres mate les fourneaux qui se présentent à elle. Elle maîtrise les sauces, elle dompte les viandes, elle terrasse les poissons, maniant d'un geste sûr et ferme à la fois les spatules, les fouets et autres queues de casserole qui, sous la houlette de son poignet de fer, lui obéissent dans un élan quasi militaire. Elle est douée, elle est brillante, la Julia Sedevjan, mais est-elle pour autant une femme de cœur ?
Non.
Non, bien sûr que non. Fière de son étoile qui attire dans sa gargote les plus nantis des clients, elle en oublie les miséreux, les petits qui n'ont pas le sou et sont condamnés à errer de bistrot romain en brasserie flunch. Et comme ça ne suffisait pas, Julia terrorise les brigades qu'elle met au pas et qui, tout au long d'un service impeccable et révérencieux, lui répondent toujours par un fébrile et terrifiant « Chef, oui, chef !» Quant à vous, Ovidie, que dire ? Certes, vos films m'ont mis en joie, pour ne pas dire en transe. Certes, vos documentaires m'ont passionné. Certes, vos positions de liberté de jouir de son corps sont passionnantes également. Certes, vous me plaisez. Mais cela fait-il de vous une femme de cœur ?
Pulsion.
Non.
Non, bien sûr que non. Vous laissez dans le marasme érotique des millions d'hommes qui, après avoir tangué émotionnellement au rythme de vos travaux, se retrouvent chez eux en pleine misère affective face à ce qui fut un jour une femme ou bien un homme avec qui les ravages du temps et de l'ennui sont devenus des zombies en charentaise dont l'érotisme a sur vous l'effet d'une tisane. Méchante. Mesdemoiselles, il n'y a pas de quoi être fière, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Julia Ovidie, ne changez rien! Voilà, on est ravis de vous recevoir, et c'est pour ça qu'on ose vous parler de la sorte. Attention, titre de légende, titre culte. The Clash, Magnificent Seven, on en semble jusqu'à 18h.
C'est bien
vous
ça.
Les femmes, si vous préparez pour le réveillon, bon courage, bonne fête à vous, et bon Noël avec un petit peu d'avance.
At the 7-Eleven, mobsters think, but he has sense. Engels, Lenin, and
The Clash, The Magnificent Seven sur France Inter, dans
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais. Étends sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Vous les femmes, avec Ovidie qui signe Libre Manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels aux éditions Tapas, et Julia Sedef-Dior, chef étoilé, qui d'ici, allez, un gros 2 mois, va ouvrir son restaurant Bayetta, 5 rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement de Paris. Alors, petit exercice. Julia, ce soir, c'est le repas du réveillon. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez nous faire un petit menu facile et pas cher pour réveillonner dans la joie?
Alors, pour Noël, j'adore manger des oursins. Donc en entrée, je propose une petite mousseline de céleri avec des oursins poêlés. On poêle les langues d'oursin avec un peu d'échalote, petite purée de céleri, un petit œuf de caille.
D'accord, ça c'est pour l'entrée.
C'est sympa. Pour le plat, un chapon. Chapon fourré au marron.
Mm-hmm. C'est pas un peu étouffe-chrétien, c'est Noël, on a le droit de le dire. Non, c'est pas...
Fais attention à ce que tu dis.
Oui, pardon.
Il est encore là.
Pardon, mon père.
Je croyais qu'il était parti pour bouger un petit peu. Je pensais que vous étiez prêt à partir pour préparer la messe, père Albert.
Et après,
en dessert? Et en dessert, une bûche clémentine. Allez, parce que c'est la saison clémentine-noix.
Bûche clémentine-noix, c'est pas mal. Ouais. Vous validez ce petit menu de réveillon, Ovidie?
Bah moi, je suis végétarienne, hein, donc désolée de péter l'ambiance.
Alors,
végétarienne à tendance végane, donc là, les oursins.
Bon, la bûche,
bon, la bûche, ça passe.
Voilà.
La clémentine, vous mangez de la clémentine.
La bûche, ça passe toujours.
Hein
Oh là là, je vous vois ricaner.
Vous avez cherché, Ovidie.
C'était un peu facile.
Oh, je me déçois moi-même.
Non, je parle d'eux, c'est ça le pas.
Essayez de faire un petit peu abstraction de votre condition de végétarienne, c'est plutôt sympa ce qui est proposé.
Oui, enfin la bûche quoi.
D'accord, voilà. On a compris.
Alors qu'est-ce que vous avez préparé pour ce soir, Ovidie? Parce que des légumes quand même.
Moi je suis une piètre cuisinière. Hier soir j'ai fait un plat de coquillettes petits pois. J'étais au maximum
d'accord.
Art quoi.
Ah oui, donc le réveillon va être sympa.
Non, moi je cuisine pas très bien, faut bien le dire.
Bon, la bûche coquillette, hein, si vous voulez, Ovidie, vous allez vous régaler. Tiens, Ovidie, au lieu de faire la maligne comme ça, vous avez signé un doc sur la Suède.
Effectivement, qui va être diffusé cet hiver sur Arte, qui s'appelle « Là où les putains n'existent pas ».
D'accord.
Et qui est une réflexion sur la société suédoise et qui part d'un fait divers, qui est l'assassinat d'Eva-Marie Kullander-Smith, une femme qui s'est pris 31 coups de couteau dans les bureaux des services sociaux suédois.
Elle s'est pris des coups de couteau, c'est par quelqu'un de son entourage ou c'est par quelqu'un derrière le guichet?
Où est les maladroites?
Elle est tombée 31 fois. Non mais il s'agissait d'un féminicide comme il y en a tant d'autres, c'est-à-dire qu'elle a été assassinée par son ancien compagnon. Et donc à travers ce fait divers qui est complètement fou, il y a des histoires d'enfants qui sont cachés quelque part en Suède, que les administrations ont planqué, que la famille n'arrive plus à contacter.
Attendez, Ovidie, là on a tous plus ou moins en tête la Suède.
comme pays exemplaire au niveau social.
Alors pas
non,
du tout.
Non, c'est l'image que j'en ai moi.
La Suède, c'est le Brave New World. En fait, c'est un pays qui est missionnaire, qui aime bien se faire passer pour la caution morale de l'Europe. Et donc, dans ce pays-là, où il est censé ne pas y avoir de criminalité, où le sexisme est censé être au plus bas, où il n'y a pas de pauvreté, soi-disant, alors qu'il y a quand même une très grande misère dans les campagnes suédoises, on exporte ce côté carte postale, cette vision de Stockholm absolument parfaite. Et surtout, on cache sous le tapis tout ce qui est un petit peu dissonant, tout ce qui est un peu gênant. Et cette histoire est assez symptomatique de l'état d'esprit du pays.
Bon, on peut pas
Après,
encore parler de la date,
beaucoup,
la date
beaucoup,
de sortie. Ce sera sur quelle chaîne, on peut le dire ?
Arte, c'est sur Arte, cet hiver.
Ce soir, c'est le réveillon, on l'a compris. Alors, voilà les conseils d'un grand spécialiste de cuisine, c'est notre ami Jean-Pierre Coff. Comment allez-vous, Jean-Pierre ?
Mais je vais très très bien, Daniel. Je sais pas où est passé Albert. Alors, bonjour mes petites filles. Ça y est, le compte à rebours est déclenché. Dans quelques heures à peine, le réveillon de Noël va commencer. Si vous avez prévu pour le dessert une bûche traditionnelle, c'est bien, d'accord, hein ? Mais il est encore temps, nom de Dieu, d'innover un peu pour épater votre famille et vos proches, tout en les régalant. Mais alors, attention avec moi, pas question de faire dans le conceptuel, dans le fooding, la déstructuration des saveurs et hôtesse brouffe pour Bobo aux papilles atrophiées.
Une petite bûche à la clémentine ?
J'y viens. Ah. Julia, c'est des gens, comme vous aimez surtout travailler les produits de la mer, je vous propose ma bûche au phoque. Ou plus festive encore, ma bûche à l'otarie parce que c'est la saison. Pour vous, Ovidie, dont vous êtes végétarienne, j'avais évidemment pensé à vous proposer la recette du fameux bras de gitan, notre ami le pâtissier Christophe Michalak, c'est comme ça. Que ça s'appelle.
Oui, c'est vrai. Hein,
on en a mangé, même dans un studio voisin. Mais, donc, il n'y aura pas de bras d'enfant, mais ma bûche à l'otarie vous procurera tout autant d'agréments, parce qu'il compte pour vous, mesdames, je le sais par vos travaux respectifs, on en a parlé à l'antenne à l'instant, c'est le plaisir. Alors, je vais vous en donner. Voilà.
Alors, bon, ça faudrait donner la recette. Hein,
oui, mais justement, j'attendais que tu me le demandes.
Ça y est,
chez
c'est
votre
fait.
Poissonnier ou à l'aquarium du Trocadéro ou au Marine Land d'Antibes, hein, vous avez encore le temps d'y passer. Choisissez une otarie bien fraîche, ça sent moustache, bien dru. Ensuite, chez vous, dans la baignoire, avec une feuille de boucher, un couteau électrique ou une meuleuse à béton, façon. Tranchez la tête bien nette et recueillez la glaire par aspiration des narines et des sinus avec l'aspirateur de table ou une pompe à vélo.
C'est pour combien de personnes ça ?
Ah, ça c'est au moins pour 6 personnes, hein, le papa, la maman, les enfants, un papa, une maman.
Oui, allez-y.
Je passe sur la préparation du biscuit roulé, ça c'est la routine. En revanche, vous me préparez la glaire dans une terrine façon crème au beurre ou blanc d'œuf en remuant énergiquement pour qu'elle épaississe avec une poche à douille. Ensuite, attention, pas de contre-pétri. Appliquez la glaire crémeuse sur le biscuit de façon uniforme. Roulez le biscuit à l'aide du torchon. Et le restant de glaire, eh bien, vous me ferez un bon glaçage. Vous mettez au frais pendant une petite heure. Servez la bûche, joyeux Noël.
Attendez, Jean-Pierre, excusez-moi, mais le reste de l'otarie, c'est un peu du gâchis.
Oh, mais merde, à la fin ! Mais enfin, si vous voulez pas de Marcette, faut
mais
le dire.
Si,
mais non !
Mais il y en a pas à la baignoire.
Vous n'avez qu'à bouffer comme Ovidie une bûche végane au tofu. Mais faudrait pas venir pleurer si on vous dit que vous n'avez pas pris un kilo, pas pris de bite pendant les fêtes. Bon, allez. Joyeux Noël quand même. Et n'oubliez pas l'otarie, il n'y a pas d'heure pour en manger.
Merci Jean-Pierre Coff, bravo, quelle belle
de
recette
rien.
De cuisine. Julia, t'as pensé quoi de cette recette ? C'est réalisable ou pas ?
J'ai un peu de mal parce que je voulais être vétérinaire avant d'être cuisinière, du coup
ah oui,
ça m'inspire
vrai.
Pas vraiment là.
Bon, bah écoutez, si vous voulez avoir la recette...
Mais cette saison, hein.
La recette de la bûche à l'otarie, les amis, vous pouvez vous régaler, hein, on mettra ça sur le site de l'émission.
Vous les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter,
bien sûr, jusqu'à 18h avec Julia Sedefjan, chef étoilé qui va ouvrir Bayetta 5 rue de Pontoise dans le 5e. Ce sera son restaurant à elle. Et Ovidie qui signe Libre manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels aux éditions Tapas. Ovidie, oui. Vous avez fait ce que des milliers de Parisiens rêvent de faire. Vous avez quitté Paris, ça se passe comment ?
Ça se passe plutôt bien, en fait. C'est vrai que, comme pas mal de Parisiens, j'ai pesté, j'ai dit que le métro, j'en avais marre, que j'en avais marre de finalement gâcher toute ma vie à la gagner juste pour payer un loyer. Ouais. Enfin, voilà. Et je me suis barrée à la campagne. Je dirais pas où. On va peut-être pas filer mon adresse en plus.
Non, mais on la mettra sur le site de l'émission. Hein, vous inquiétez pas, on la mettra tout à l'heure.
Et voilà, j'ai pris chien, enfant, et voilà, je me suis éloignée.
Julia Sedef-Dian, on voit avec vous que même très jeune, on peut réussir vite dans une carrière de chef. Alors pareil, pour tous ceux qui hésiteraient un peu, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ? Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la cuisine et qui se disent non, ça va être trop difficile.
Moi, j'encourage tous les jeunes à se lancer et à faire des sacrifices. Surtout, c'est un métier où on ne nous force pas d'y rentrer. Mais si vous êtes passionné, ne lâchez rien. C'est pas parce que c'est dur qu'on voit un peu moins notre famille au début. Voilà, c'est des sacrifices pour après arriver à nos objectifs et dire à 40 ans, ben voilà, j'ai mes restos et là, je prends du recul, je vais voyager, je vais faire plein de choses. Donc oui, au début, c'est dur. On gagne pas forcément des 1000 et des 100. On fait des horaires. On fait pas que cuire. On fait pas que toucher à du poisson. On épluche des oignons, oui. Mais
on chiale.
On chiale, ouais, on chiale. Moi, je chiale à chaque fois que j'épluche un oignon. C'est magnifique. Mais voilà, faut s'accrocher parce que c'est vraiment un métier passionnant. On en apprend tous les jours. Et voilà, moi, j'adore transmettre ma passion aux jeunes parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est mes années de formation qui m'ont le plus marqué. Donc, c'est les années où il faut pas lâcher, quoi.
Je peux pas
bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre pratique quotidienne qui vous dégoûte? Parce qu'on a tous un truc, je pense, dans notre profession qui nous débecte à un moment.
Je m'en fous, moi. Je suis dans ma cuisine. Mais je connais des personnes qui sont très sensibles aux odeurs, donc voilà, dès qu'on reçoit du gibier ou même le poisson dès le matin, voilà, on arrive à 7h30 en cuisine, on reçoit le poisson.
Mais est-ce que ces personnes ont choisi la bonne profession si elles sont sensibles aux odeurs de gibier et de poisson? Non, mais c'est vrai, quelques odeurs d'aliments.
On passe outre tout ça au début. Ah oui. Ça fait bizarre. Moi, la première fois que j'ai ouvert des Saint-Jacques, petite anecdote, je suis à Noël avec mes parents, on ferme le resto toujours 3-4 jours pendant Noël et je leur dis je vais vous faire des Saint-Jacques. Et donc je vais acheter des Saint-Jacques chez le poissonnier, première tournée, je les ouvre, j'ai dit putain, mais Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Je jette les Saint-Jacques et je dis à ma maman, il faut qu'on retourne acheter des Saint-Jacques. Et je rachète une tournée de Saint-Jacques que je réouvre. Et je dis, mais c'est pas possible, ça sent toujours mauvais. Et j'appelle mon chef et il me dit, non mais Juju, en fait tu te rends pas compte, mais c'est juste qu'en cuisine c'est beaucoup plus grand, donc t'as pas cette odeur. Mais voilà, la Saint-Jacques, ça sent super fort, c'est comme ça, et t'aurais pas dû jeter les premières en gros.
Ça va, vous avez jeté que simplement une fois, vous n'avez pas continué à...
Vous êtes la 10e caisse.
Le Noël à 1800 euros, que vous avez mangé deux Saint-Jacques.
Il se termine avec une tranche de jambon.
Hyper cher.
Vous arrivez à cuisiner au quotidien ?
Ça n'empêche pas.
Vous savez, c'est les cordonniers qui sont plus mal chaussés. Chez nous, c'est un peu pareil. Mais en fait, on n'a pas beaucoup d'occasions de manger à la maison, de faire des petits plats pour nous. On mange au restaurant sur place. Donc, on va vers la facilité. Mais dès qu'il y a des occasions, qu'on reçoit des amis, la famille, j'aime bien leur faire plaisir. Donc, c'est plus sur ces moments-là que je vais faire à manger à la maison. Sinon, quand c'est pour moi, clairement... On prend des raccourcis, quoi.
Quoi comme raccourcis ?
Non, mais
tu te rends McDo ?
Manger les restes.
C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Le menu Maxi Best-of, je vous rappelle, 17,70. Et c'est la régalade.
Aïe, aïe, aïe.
Hervé, vous êtes intéressé au cas de nos invités. Vous avez commencé par Julia, apparemment.
Oui, alors Julia, je voulais vous dire, vous n'êtes pas au courant, mais il y a un restaurant qui va ouvrir, qui va faire une grosse concurrence, mais sa spécialité, ça sera le gras, ça sera le cholestérol, ça sera tout ce qui est interdit ailleurs, et ça va être subventionné par le ministère de l'Industrie qui va vraiment investir là-dessus, parce que il faut contrebalancer cette mode du bio et de la bonne bouffe.
On écoute.
Je vais déjà au McDo, donc ça va être un concurrent du McDo.
La viande qu'on mangeait avant, elle était pure.
Non, je n'irai pas. C'est à éviter si on veut d'abord vivre plus longtemps et coûter un peu moins cher à la sécurité sociale.
Alors moi, ça dépend ce qu'on appelle gras. Le gras, si c'est de la crème fraîche, peut-être que j'irai.
Et voilà. Le bio a quand même de belles heures. Hein.
Ah oui, non, mais ça, c'est difficile de lutter contre le bio. Hein.
Alors, quand vous avez été voir nos sympathiques concitoyens, que vous avez parlé d'Ovidie, qu'est-ce que vous avez abordé comme axe, comme
Alors,
sujet?
Alors, pour Ovidie, j'ai eu l'idée d'imaginer une nouvelle émission de télévision sur France Télévisions, donc présentée par Frédéric Lopez, pour un petit peu initier les jeunes à la sexualité. Et donc, les couples pourront faire l'amour devant des caméras et comme ça, pas des professionnels, les couples lambda, et pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu et qu'il y ait peut-être une meilleure image de la sexualité.
On écoute la réaction.
J'ai déjà regardé au début Love Story, donc on a déjà eu des émissions sexuelles dessus. Ça faut pas que ça soit flouté, quoi.
Masturbation en direct, c'est très bien.
Je suis contre parce que l'amour, ça reste entre l'homme et la femme, et entre eux, il faut pas montrer au monde d'être prêt pour les enfants aussi.
C'est peut-être un peu osé.
Nous, on n'avait pas ça, on faisait ça à la campagne, dans le foin et tout ça.
Fantastique.
Sûrement pas. Moi, vous comprenez, j'ai bientôt 90 ans, alors je ne suis pas du tout moderne pour ce genre de choses, n'est-ce pas?
On apprend à deux en expérimentant, pas en regardant.
Ouais, et voilà. Pleine de bon sens, la dame.
Ah, il y a de la philosophie, hein, et il y a à la fois des téléspectateurs en puissance, hein, et puis des qui sont un peu plus philosophes.
Ça donne envie d'aller dans les foins, en fait. Hein.
Oui,
je crois que le plus gênant, c'est d'imaginer Frédéric Lopez qui me regarde. je crois que c'est surtout ça.
Oui, vous avez un contentieux avec lui.
Ah, peut-être. C'est bientôt la fin de l'émission, c'est même la fin de l'émission, et c'est Noël, et quand c'est Noël, c'est cadeau, et quand c'est cadeau, c'est Alberto.
Eh bien là, aujourd'hui, oui, Noël oblige, et des cadeaux, il y aura deux cadeaux pour chacune. Alors, tout d'abord, eh bien Julia, je vais vous offrir Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, édition Tapas et Ovidie et Digli. Voilà, merci. On en a beaucoup parlé, c'est un livre tout à fait formidable. Et puis, il a eu le prix Volinsky de la bande dessinée, c'est Blotch, c'est un grand dessinateur, c'est des variations autour de la bande dessinée, c'est absolument magnifique, et c'est chez Dargo. Voilà, je l'avais déjà présenté ici, oui. J'en présente une autre fois. Ovidie, pour vous, alors, de Jean-Louis Tripp, un livre qui va, je pense, vous intéresser. Ça s'appelle Extase, chez Casterman.
Jean-Louis Tripp, pour une végétarienne, vous mettez dans le mille. Bravo.
Jean-Louis Tripp, qui travaille beaucoup avec Régis Loisel. Donc, si le dernier continent à explorer était celui de l'intime, il pose la question. Donc, c'est un ouvrage autobiographique qui est admirablement dessiné, qui narre de l'enfance à l'âge adulte, les émois, les égarements du cœur, du corps et de l'esprit, les sensations, les sentiments et les pratiques sexuelles. C'est tout à fait remarquable.
Super.
Donc Jean-Louis Tripp chez Casterman, Extase, et c'est le point de vue d'un garçon. C'est le point de vue comment il voit les filles au départ, la timidité, la transgression. C'est tout à fait remarquable et ça embrasse, je pense, beaucoup de thèmes qui sont abordés dans votre livre Libre. Et super, puis je vous offre aussi, c'est Yvette, l'intégrale des chansons d'Yvette Guilbert, qui est réinterprétée, recréée par Nathalie Joly, qui est une chanteuse actuelle. Et Yvette Guilbert, c'était la précurseur d'une écriture, disons, féministe moderne. Elle a inventé le parler, chanter. Elle était admirée par Zola, par Freud, par Pierre Loti, etc. Et son répertoire, surtout, il est d'une audace folle, il est poétique, il est drôle. Il y a des chansons célèbres, Madame Arthur, Parti carré, Les femmes trop mûres, Les amis de Monsieur. À mon avis, ça vous plaira beaucoup et c'est un personnage extrêmement intéressant que Yvette Guilbert. C'est chez Frémaux et Associés.
Voilà. Merci beaucoup.
Et beau cadeau.
Et j'ai un dernier cadeau.
Ah bah
comme
oui.
Je vous l'ai déjà offert, Daniel, je l'offrirai à Hervé. C'est Les cœurs simples, hein, un florilège de textes où apparaissent des simples disputes.
Acheté Albert parce les droits vous vont à votre association, donc j'ai tenu à l'acheter.
Vont au fonds de dotation La Bonne Aventure.
Voilà.
Donc c'est Les cœurs simples et c'est chez Casterman. Donc vous voulez faire une
bonne action
pour Noël, ouais. Vous achetez Les cœurs simples et vous l'offrez. Voilà. Tenez Ovidie, je vous l'offre.
C'est reversé à quelle association?
Le fonds de dotation La Bonne Aventure qui aide des adultes autistes. Je mets des guillemets sans solution, c'est-à-dire qu'ils sont des exclus parmi les exclus dans notre société aujourd'hui en France. Il faut le savoir. Voilà.
Donc acheter ce livre, c'est aussi non seulement c'est un beau livre, mais en plus c'est
très
une bonne action.
Et les librairies sont encore ouvertes, je peux vous le dire.
C'est la fin de l'émission. Cette fois, c'est officiel. L'émission de Noël est bel et bien terminée. Alors aujourd'hui, nos invités étaient Julia Sedefjian, la plus jeune chef étoilée, qui le mois prochain, au mois et demi prochain, ouvre son restaurant La Baïetta, 5 rue de Pontoise, dans le 5e. Menu déj à 30€. Ovidie qui signe avec son illustratrice Digli Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, édition Tapas. Merci Albert Algou, merci Hervé Pochon, à la réalisation de l'émission Marianique Rimbaud, attaché de production Christine Kern, à la technique Théo Gomard, programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Eve Ruggieri et Ophélie Neyman, Ophélie surnommée Miss Glouglou. Au revoir, bon dimanche, bon réveillon à tous et joyeux Noël, évidemment, à l'écoute de France Inter.
Papa Noël, ne parlez pas de Noël, vous n'en avez même pas les symptômes. Ici, y'a 5 mômes à qui je vais offrir.
Comment
se dire
Père Noël?
En 5 mômes.
Toi, t'es malade, t'as des visions comme Rabanne Paco. Hey, rapat et toi de ma hôte, pour toi y'a pas de cadeau.
Symptôme, t'es comme mon perroquet Jacob.
Si toi t'es le Père Noël, alors moi je danse mieux pour Pinta.
Comme un gros Romain la nuit, tout le monde sait que tout est parti. Sa barbe est sétif, c'est pas son taf, même s'il kiffe. Vaut mieux rester dans